Ok. Bon, nous allons passer à la deuxième partie maintenant. Nous allons laisser Diallo le migrant et nous allons maintenant parler de Diallo l'activiste dans le domaine de la migration irrégulière. Tu nous as dit tantôt dans ta présentation que tu luttes contre la migration irrégulière. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton association et aussi nous donner les domaines dans lesquels elle intervient?
Ok, c'est comme j'ai dit, l'association, c'est le nom, c'est Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière,
Ok.
OGLMI. Donc,
Ok.
l'association a été créée en 2018 à la base par des migrants de retour.
Ok.
Et, au fur et à mesure qu'on évolue, on s'est associé avec les potentiels migrants. Nos domaines d'intervention à la base. Qu'est-ce qui nous a poussé d'abord de créer l'association? C'est le fait que nous, on a constaté beaucoup de jeunes qui partaient, ils manquaient des informations. Et à travers nos frères qui se trouvent en Occident, à travers les passeurs, on leur donnait une illusion en fait. Donc on s'est dit, OK, nous qui sommes partis et nous sommes revenus, on a vu vraiment les réalités. On a compris que ce jeune, par exemple, sont tentés souvent la migration parce qu'on leur donnait une fausse information. Et secondo, ce jeune pensait peut-être que la possibilité de réussir n'était pas ici. Parce que nous, aussi, c'est ce que nous pensions. C'était impossible de réussir en Guinée. Et dès lors, nous sommes partis, on a compris qu'on a laissé beaucoup d'opportunités ici. Si on les faisait ici, on n'allait pas avoir tout ce qu'on a eu, disons, la souffrance et tout ce que vous connaissez. Donc, on s'est dit, OK,
Tout à fait.
restons là comme une interface entre cette population, cette couche potentiellement migrante et peut-être et aussi ces jeunes qui reviennent, parce que plus souvent les migrants de retour, parce qu'en Afrique, on a un problème. Quand quelqu'un part, tente d'aller en Europe, et s'il n'arrive pas à réussir, c'est comme si on disait il est maudit, mais c'est tout le monde qui lui ségrègue, la famille, qui lui stigmatise, disons, la famille, et les amis, et d'ailleurs, les collaborateurs. C'est comme si c'est une personne qui est maudite, qui n'a pas eu la chance, ou bien c'est ses parents, c'est sa maman, voilà, et qui n'obéissait pas et ses parents. Donc, vous voyez tout ça. Donc, on s'est dit, OK, peut-être en créant une communauté qui pourra accueillir ces jeunes-là dès qu'ils arrivent et s'approcher ces jeunes-là, les conseiller, les faire comprendre que, OK, vous êtes revenus, mais vous avez une autre chance aussi de réussir dans votre pays. Donc, c'était les deux catégories, c'était les deux objectifs qu'on s'est fixés dès le départ. Et c'est protéger et orienter, coacher les migrants de retour et informer les potentiels, informer les dangers liés à la migration irrégulière, aux potentiels migrants et informer, les informer sur les opportunités de réussite qu'ils laissent ici et en tentant d'aller en Europe et démasquer, disons aussi, les fausses informations. C'était ça.
Wow, ça c'est vraiment inspirant, c'est aussi une très très bonne initiative. Donc déjà, ça fait déjà 3 ans que vous êtes déjà actif et c'est sûr que vous avez déjà, comment dire, ouvert les yeux déjà de la jeunesse dans votre pays. Donc en plus déjà de ces actions, qu'est-ce que vous avez prévu entreprendre toujours dans le même sens contre la migration irrégulière avec votre association?
OK. D'abord, ce qu'on a eu à faire d'abord, pas seulement avec. On a beaucoup travaillé avec l'État guinéen, le gouvernement guinéen, disons. Mais avec OIM, on a fait beaucoup de choses avec OIM aussi. Disons d'abord l'orientation des jeunes migrants de retour, l'accueil quand les migrants reviennent, parce que certains sont traumatisés. Nous, on part à l'aéroport, on les accueille. On essaie d'expliquer à ces jeunes-là quelles sont les opportunités et offertes par les institutions, par exemple, ceux qui sont revenus au compte de l'OIM, parce que tous ceux qui sont revenus au compte de l'OIM bénéficieront d'une assistance auprès de l'OIM. Mais au-delà de ça aussi, on a eu à travailler aussi, on travaille d'ailleurs avec une ONG, disons la Caritas, DOCSN de Nador. la délégation dédiée aux Césaines d'Emnador. Donc, chaque mois, on a un projet qu'on met en place en faveur des jeunes. Ce projet, c'est quoi? C'est chaque mois, au moins, trouver 10 familles migrantes vraiment, qui sont vraiment vulnérables. Donc, assister cette famille-là et en besoin de, en nature et, disons, en denrées alimentaires. Donc, après ça aussi, on a eu à contacter aussi certaines, disons, institutions, par exemple, Enabel. Actuellement, on est en collaboration avec Enabel pour ceux qui sont revenus potentiellement, parce que, vous savez, il y a trois catégories de migrants. Il y a ceux qui sont revenus au compte de l'OIM qui revient avec le projet EITF. Il y a le retour spontané, ceux qui payent son propre transport ou bien ceux qui ont été assistés par les familles et ceux qui ont été déportés. Donc, ceux qui sont revenus par leurs propres moyens et ceux qui ont été déportés ne bénéficieront aucune assistance auprès de l'OIM si, par exemple, ce n'est pas un cas vraiment vulnérable que l'OIM lui-même ou bien elle-même elle accepte de faire des faits verts parce que c'est un jeune qui est vraiment vulnérable, mais sinon ils ne bénéficieront pas d'assistance. Donc il y a ce projet qui est à Enabel qu'on appelle Integra qui assiste certains migrants. Nous on est en train d'identifier tous ceux qui sont revenus au compte de qui sont revenus par leur propre billet, on les met en relation avec Integra, Enabel, pour que pour leur réintégration de façon durable, parce que c'est un projet d'une assistance de 9 mois, formation et en entrepreneuriat et disons en métier. Donc, il y a le projet aussi qui était là, le projet avec Croix-Rouge qu'on appelait Amira. Donc là aussi, on a eu à amener quelques migrants de retour qui sont revenus par leurs propres billets. Donc, quelques migrants aussi. Il y a la délégation, ils ont été assistés certains, même si ça reste beaucoup. Mais pour le moment, en termes de trucs concrets, à part des enquêtes qu'on mène pour les institutions, disons, en assistance aux migrants, c'est ce qu'on a eu à faire. Mais à part de ça, on a mené beaucoup de campagnes de sensibilisation sur le terrain. D'ailleurs, on a un projet, on travaille avec OIM appelé Migrant as Messengers. Ce projet, c'est le migrant comme messager. Donc, on incite aux migrants de retour de raconter leur histoire. Donc, et on organise des focus groups, on invite des potentiels migrants et on les fait. Disons, on les met en relation avec les migrants, donc les migrants racontent leur histoire. Donc, on est en train de voir comment signer des partenariats aussi avec d'autres institutions, comme l'Expertise France, qui nous ont promis d'ailleurs, bientôt on va signer le protocole d'accord, donc ils vont subventionner un projet qu'on a mis en place. Et à côté l'Union européenne aussi. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Union européenne. Mais en grosso modo, c'est ce qu'on a eu à faire d'abord.
Waouh, ouais, ça déjà, c'est parfait. Déjà en 3 années d'activité, vous avez déjà...
Aujourd'hui encore, on a eu au moins à participer au fait à l'élaboration de la politique migratoire, à la politique nationale migratoire, la politique migratoire nationale, disons, avec l'Observatoire national. Donc, nous sommes membres. Et le comité de lutte contre la traite, la politique nationale de lutte contre la traite et des pratiques assimilées. Donc, disons, on travaille avec les structures étatiques, les directions nationales qui sont dans les différents ministères.
Donc. Ok, parfait. Ok, j'ai une toute dernière question pour vous. Est-ce que COVID-19 change quelque chose dans les phénomènes de migration actuellement?
Disons, d'abord, l'arrivée de la COVID-19, ça a causé assez de problèmes aux migrants, surtout ceux qui sont dans les pays de transit. Parce que si vous imaginez lors du confinement, imaginez un migrant de retour qui ne vit que sa journée, quand il passe, ou bien c'est un journalier qui ne travaille que par jour. Et si lui, on lui dit, ok, là, tu restes chez toi, tu ne sors pas. Donc, physiquement, ça, financièrement, ça les impacte. Et physiquement, ça les impacte. Donc, si vous imaginez, il fut un temps aussi où, lorsqu'on avait interdisé les voyages, il y a eu des migrants qui ont été bloqués pendant des mois, surtout au Niger et autres. C'est après l'allègement des confinements, c'est en ce moment que l'OIM a pu ramener certains jeunes. Donc, certains sont revenus avec des traumatismes. Donc, peut-être ça peut changer ou bien ça peut donner une chance à certains. Mais j'avoue que ça a plus d'impact négatif aux migrants qu'à l'impact positif. Parce que je ne vois pas une amélioration auprès des États pour dire, OK, comme c'est le moment de COVID-19, donc il faut faire un allègement ou bien il faut accompagner les migrants. Et ça va être un peu compliqué. Mais peut-être les États pourront réfléchir après, ou bien les institutions pourront faire des recommandations peut-être auprès de ces des États pour faciliter peut-être au retour de certains jeunes qui sont bloqués dans ce pays-là. Parce que jusqu'à présent, il y a des jeunes qui sont vraiment qui sont bloqués dans ce pays, surtout la Libye. Et si le vol ne vient pas, et la Libye, vous connaissez, c'est un pays de guerre où on ne travaille même pas. On n'est pas habilité à travailler, donc vraiment l'impact est trop négatif.
Ok. Est-ce que vous utilisez aussi ces informations, les vécus des autres par rapport au COVID-19 et la migration? Est-ce que vous l'utilisez dans des séances de sensibilisation avec d'autres personnes aussi qui sont tentées de partir à l'aventure aussi? Et aussi, il faut noter que l'Eldorado est actuellement confiné. Donc du coup, ça rend les choses un peu plus compliquées et on se demande si ces informations que vous avez sont utilisées pour au moins conseiller les autres personnes qui sont tentées de migrer aussi.
Et vous savez, d'abord, on est confronté à un problème à ce niveau d'abord. Parce que je ne sais pas si les jeunes africains ne prennent pas conscience, mais imaginez, certains pensent aujourd'hui et peut-être à après COVID-19, peut-être l'Europe sera vide. Donc, ils auront besoin peut-être de la jeunesse africaine. Certains le pensent, même si nous, on essaye de faire comprendre que vraiment, tel n'est pas le cas. Mais certains le pensent jusqu'à présent. Mais à chaque fois qu'on organise des campagnes de sensibilisation, deux fois, on fait intervenir ceux qui sont revenus pendant la COVID-19 pour que ce jeune-là puisse témoigner et comment ils ont vécu pendant cette période et comment ils ont pu revenir et comment la COVID-19 les a impacté leur voyage, vous voyez. Mais c'est compliqué au fait, parce que certains pensent jusqu'à présent, après la COVID-19, comme il y a assez de décès, donc l'Europe aura besoin encore de migrants.
Ok, super. Merci beaucoup déjà pour tout le temps que vous nous avez accordé, vos témoignages. Nous avons appris plein de choses sur la vie que beaucoup de nos frères migrants vivent là-bas, parce que d'autres n'ont pas la chance de revenir, d'autres y ont laissé la vie. Et c'est souvent triste. Mais déjà, vous faites beaucoup de choses déjà avec votre association afin de pallier au manque d'informations que la plupart des migrants font face avant de prendre leur voyage. Cela aussi les aide à avoir une meilleure décision, parce que aller là-bas n'est pas forcément obligatoire, ou disons que la porte de sortie n'est pas forcément là-bas. Nous avons des solutions ici aussi, et que votre association dévoile à ceux qui sont tentés de vouloir quitter le pays local. Déjà, nous vous remercions vraiment pour le temps que vous avez passé avec nous, et on se dira à plus.
Merci.